Chapitre 8. Galimard intervient. À cette question de la cousine d'un cousin distingué mais indécis, Thérèse se redressa avec quelque irritation. « Je ne peux pas tout de même demander M. Maujean en mariage, » protesta-t-elle. « mais si, il y a 100 moyens convenables de le faire. Le mal, c'est que vous êtes aussi indécis l'un que l'autre. Voyons, Thérèse, ai-je raison ?» Depuis 2 ou 3 jours, elle s'appelait par leur prénom, celui de Beaupastel étant Claire. « Oui, vous avez raison, » accéda Thérèse. « Je n'aime pas beaucoup ça. Non, je n'aime pas du tout qu'on mène mon cousin par un fil pour le lâcher finalement. Il aura du chagrin. » Le ton de Beaupastel devenait moins amène. Thérèse se rembrunit davantage. « Vous me conseillez, vous me poussez, faites-en autant auprès de votre cousin. Ce serait même plus utile. »« Très bien. Si je le pousse jusqu'à la demande, l'accepterez-vous ?» Thérèse immédiatement s'affola. « Pas encore, » s'écria-t-elle, « je ne suis pas décidée. Il y a des choses, des obstacles. » Cette fameuse valvule qui le fera tomber mort au pied de la colonne de Juillet ? Non, non, pas cela. D'abord, ça n'arrivera pas. Je lui ferai oublier cette obsession. Mais, de mon côté, vous ne devinez pas ? Si, je devine que vous avez eu un chagrin d'amour en Angleterre. Mais toutes les jeunes filles ont eu un chagrin d'amour. J'en ai eu 3 ou 4 pour ma part, ce qui ne m'empêchera pas de me marier par amour quand je me marierai. Mon chagrin à moi est peut-être plus grave, fit Thérèse d'une voix basse et hésitante. Et il faudrait que j'en fasse la confession avant de me marier. Est-ce indispensable ? Demanda la gentille artiste, tout à coup plus sérieuse. Je comprendrais si ce chagrin était une faute. Elle s'interrompit, elle fixa sur les yeux de Thérèse ses yeux bleus agrandis comme de larges fleurs. « Ce n'est pas une faute !» déclara Thérèse d'un ton ferme. « Dans ce cas, je vous assure qu'il est beaucoup plus sage, pour l'un comme pour l'autre, que vous ne fassiez aucune confession. À quoi bon ? Ce qu'on ignore ne fait pas mal. Si vous croyez que je vais raconter à mon futur époux les incidents où l'on m'a pris, où j'ai peut-être rendu... « Un baiser ? Mais qu'avez-vous fait à votre jolie main ? » s'exclama-t-elle, comme Thérèse, sans y penser, avançait ses doigts sur la table vers un presse-lettre qu'elle toucha machinalement. « Oh, rien, peu de choses. Ma main a frôlé les orties. Cela m'a évité de recevoir un baiser. »« De mon cousin ? Vous n'y pensez pas ? Votre cousin n'est pas homme à me voler un baiser avant d'avoir pesé le pour et le contre. » « Je reconnais qu'il est agaçant, » soupira Beaupastel. « Avec toutes ces façons, je ne vois pas comment vous en sortirez. » Au bout d'un moment, sur le seuil de la porte, Thérèse dit « J'ai à Londres une amie qui connaît tout de mon chagrin. Je lui écrirai, je lui demanderai conseil. » En cet instant même, Madame Black Galimard ouvrait une valise très chic dans la chambre confortable d'un hôtel où elle venait de descendre, non loin de la rue de la Paix. Encore un peu chavirée du mal de mer dont elle était chaque fois une lamentable victime, elle restaurait avec des gouttes d'éther à l'anis son pauvre intérieur brouillé et elle se disait « Demain matin, si j'ai bien dormi, j'irai voir Thérèse à son bureau. » « Ce sera le plus court et ça me promènera un peu dans le joli Paris du Luxembourg. » Elle fit comme elle le disait et Thérèse faillit tomber à la renverse quand sa chère Galimard pénétra dans la grotte où l'annonça Marc Maujean cérémonieux. « Une visite pour vous, mademoiselle le maire. » Il referma discrètement la porte et les deux amies tombèrent dans les bras l'une de l'autre. « Quelle surprise ! Quelle bonne surprise !» balbutiait Thérèse, qui, dans son émoi, ne trouvait rien d'autre à dire. « Bonne surprise ! Vous êtes sûre ? Je ne vous dérange pas ?» fit Madame Black en regardant autour d'elle. « Est-ce que votre temps est à vous ?»« Absolument ! Je travaille quand je veux. » « Cette fenêtre pleine de fougères, c'est gentil. Je peux rester un moment ?» « Vous m'arrivez comme un ange du ciel !» s'exclama Thérèse. « J'allais vous écrire !»« Il y a du nouveau ?» demanda Jeanne Black, née Galimard. Votre dernière lettre d'il y a 15 jours m'avait fait grand plaisir. J'entrevoyais dans la pénombre un secrétaire des cathédrales, comme vous disiez, qui s'intéressait à vous, qui avait organisé un petit bureau presque sous son coude. C'est lui, cet immense garçon qui m'a reçu d'abord. C'est lui, je vais vous le présenter, fit Thérèse en se levant. Une minute, causons d'abord. Thérèse lui avança sa chaise, elle n'en avait qu'une, et s'assit elle-même au coin de la table, les pieds ballants. « Donnez-moi des nouvelles. L'Institut de beauté va toujours bien ?»« Toujours mieux. Je ne désespère pas d'avoir Son Altesse Royale Alexandra comme cliente. J'ai déjà une de ces dames d'honneur à qui mes massages et ma crème ont effacé une vilaine cicatrice à la joue. Quand vous voudrez que je vous rembourse vos 2000 francs, Thérèse, vous n'avez qu'un mot à dire. »« Merci. Pour le moment, je gagne bien ma vie. » Outre les cathédrales, j'écris des histoires innocentes sur des bois que mon chef me passe. Mais laissez-moi vous admirer, Jeanne. Vous êtes magnifique. Non, non, pas magnifique. J'ai de la ligne, voilà tout. Black est devenu très amoureux, figurez-vous, poursuivit Jeanne en entrouvant sa jaquette sur les plissés de soie mordorée d'une blouse élégante. Au début, nos affections réciproques n'étaient pas un embrasement, plutôt deux veilleuses. Black, peu à peu, découvre que j'ai autre chose que des mérites. Notre ménage marche très bien. Mon mari a quitté sa place de commis dans la cité pour se vouer complètement à la comptabilité de mon institut. Je vous l'ai écrit, je crois. Mais vous-même, vous alliez m'écrire, disiez-vous ? J'ai besoin d'un conseil, fit Thérèse d'un air hésitant. Pas ici, non, c'est gênant, parce qu'il s'agit de mon chef précisément. « Dans ce cas, sortons, voulez-vous, nous déjeunerons ensemble quelque part. » Pour sortir, il fallait passer devant le pupitre de Marc Maujon. Thérèse s'y arrêta. « Permettez que je vous présente à ma chère amie de Londres, Madame Black Galimard. Elle sait combien vous avez été obligeant pour moi. » Marc Maujon se leva. Il avait une façon graduelle de se lever et sa haute taille se développait peu à peu, si bien qu'on se demandait quand ça allait finir. Il s'inclina, murmura qu'il était charmé, glissa un regard sur Madame Black, fit un mouvement comme pour se rasseoir, mais tout de même se ravisa. Quand les deux amis furent sur le trottoir, Thérèse se tourna vers Jeanne. « Il est gauche, n'est-ce pas ? » fit-elle avec une sorte de tendresse. « J'adore sa gaucherie !»« Tiens !» fit Jeanne pour tout commentaire. Elle connaissait Paris comme sa poche et son palais gourmand de française provinciale la dirigeait infailliblement vers les bons coins. Quand elles furent installées sur une petite terrasse modeste d'où l'on voyait couler la Seine et que les hors-d'œuvre furent desservis, Jeanne reprit la conversation où elle l'avait laissée. « Et, à part sa gaucherie, qu'est-ce que vous adorez chez ce jeune homme interminable ?»« Il vous plaît, n'est-ce pas ?» demanda Thérèse anxieusement. « Pas encore, voyons. Je l'inviterai avec vous à dîner pour faire connaissance. » « Ce que j'aime en lui, reprit Thérèse qui s'animait, c'est qu'il est parfaitement naturel et sincère. Voici le tourne-dos aux tranches de foie gras, une perfection, la spécialité de ce bon coin. « Je ne parle plus, déclara Jeanne. Après ça, une petite salade avec des crevettes en mayonnaise, une glace au madère, ce sera tout. » « Vous faites des folies, murmura Thérèse, ça va coûter les yeux de la tête. Quand je suis à Paris, je me venge du beefsteak anglais. À présent, faites comme moi, savourez. » Le silence dura autant que le tourne-dos. Avec la salade, Jeanne renoua. « Personnellement, déclara-t-elle, j'aime assez qu'un homme soit gauche. Le mien l'est à l'anglaise, à l'empois. Le vôtre n'y met aucun amour-propre, aucune gêne. » « Comme vous le définissez bien !» murmura Thérèse avec une naïveté ravie. « J'admets qu'il est sympathique. Est-ce que vos sentiments vont plus loin que... la sympathie ?» Jeanne, évitant de regarder Thérèse, semblait adresser sa question à une crevette rose enrobée de mayonnaise qu'elle tenait au bout de sa fourchette. Thérèse hésitait. « Oui, dit-elle enfin, je l'aime. Je crois que je l'aime. » S'il n'est pas à son pupitre quand j'arrive, j'ai une émotion, les jambes me manquent. Un soir, j'ai failli m'évanouir parce qu'il n'entrait pas dans une soirée où j'étais. Toutes les paroles qu'il m'a dites, je les sais par cœur. Vous n'imaginez pas ce qu'il y a de bonté dans son esprit et d'esprit dans sa bonté. Mais, mon Dieu, on n'aime pas quelqu'un d'amour pour sa bonté. Alors, si je l'aime, c'est pour autre chose, parce que c'est lui. Il me gronde, il me bouscule, il est jaloux. J'ai quelque chose ici, elle mit la main sur sa poitrine, qui se crispe, qui se serre quand je pense à lui. Je n'ai jamais senti cela pour Pierre Coum. Croyez-vous, Jeanne, que j'ai aimé Pierre Coum de vrai amour ? Difficile à savoir, murmura son ami en haussant gracieusement les épaules. Mais à parler franchement, il se peut que cette fois-ci ce soit différent. À Londres, vous étiez comme envoûté par un charmeur, par un joueur de flûte. Il a su profiter des circonstances d'isolement, presque de détresse où vous vous trouviez. Vous vous êtes cramponné à une main qui vous tirait du mauvais pas. Du moins, cela me paraît ainsi. Vous avez cru que tout ça, l'émotion, une gratitude, un charme, c'était l'amour. Ça y ressemblait en tout cas. Vous m'avez dépeint Pierre Coum comme un enjôleur fort subtil. Votre secrétaire des cathédrales n'a rien d'un enjôleur, ça, il faut le lui accorder. Non, il serait plutôt rigoriste, fit Thérèse, regardant fixement une petite tache qu'elle avait faite à la nappe et qui la contrariait. Il est allé jusqu'à l'extrême bord d'une déclaration, même d'une demande. Et alors il m'a dit, ce serait votre tour à présent. Vous avez été malheureuse et sans le sou à Londres, ce qui peut arriver à chacun. Si vous me racontiez tout ça une bonne fois en détail, vous n'avez pas à confesser un crime, voyons. Moi, de mon côté, j'ai été trois fois sur le point de tout lui dire. J'ai fait des allusions, des demi-confidences. Il me trouve mystérieuse. M'aime-t-il assez pour comprendre et pour admettre quand j'aurai fait l'aveu ? Jeanne, vous qui êtes si raisonnable, vous avez dit quand j'ai quitté Londres, ce fut un rêve, ne racontez jamais ce rêve à personne. Si je fais ma confession et qu'alors il se détache de moi, je crois bien que j'en mourrai. Il faut penser à tout, prononça Jeanne au bout d'un instant.